Ceux qui sont de passage, qui nous visitent, on est ravis que vous soyez là. Ce matin, je veux continuer ma série de prédications dans la première lettre de Jean. Donc, ceux qui ont des Bibles ou ceux qui suivent sur leur smartphone, je vous invite à les ouvrir ou à les, à les cliquer. Dans la première lettre de Jean, à la fin du chapitre 2 et on lira le début du chapitre 3. 1 Jean 2, on lira les versets 28 jusque au verset 10. Mais avant de lire la parole de Dieu, je vous invite à prier pour que son Esprit Saint nous conduise, nous inspire dans vous, dans votre écoute et dans votre réflexion, puis moi dans ma prédication. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir rassemblés et merci de vouloir nous nourrir avec ta parole. Maintenant, nous nous plaçons sous la conduite de ton Esprit Saint que tu as placé en nous, afin qu'il nous déploie le cœur de telle sorte que nous soyons attentifs et sincères dans notre écoute de ta parole et que tu me conduises dans ma prédication. Amen. Jean 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance, et que, à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez de quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque lui sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui le Seigneur est pur. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Alors quiconque demeure en lui ne pèche pas. Quiconque pèche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui, le Seigneur est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, un texte qui nous fait faire le yo-yo, on part, enfant de Dieu, etc., machin, et puis après, on a les entrailles qui se remontent un peu, parce que ce texte semble dire que si tu pratiques le péché, t'es pas un enfant de Dieu. Alors là, on commence à transpirer et avoir un peu peur, mais rassurez-vous. Nous allons parcourir ce texte pour essayer d'en comprendre toute la portée. D'abord, je vous rappelle le contexte, qui est toujours important de comprendre. Jean écrit à une église, à des églises même plus exactement, qui sont traversées par des faux enseignements. Des gens qui prétendent que, un peu dans la. Font un mélange, un syncrétisme, on appelle ça, entre la pensée des Grecs et la pensée du Christ. Et comment est-ce qu'ils mélangent ça? Ils disent Parce que pour les Grecs, si vous lisez par exemple Platon ou Socrate ou des auteurs philosophes comme ça qui ont précédé le Christ, ils vont vous dire que bah oui, la matière, la chair, le corps est corrompu. Alors on va se dire, bah les chrétiens, on est d'accord, oui. Et ils vont dire oui, et en fait, l'esprit est pur. Et donc, pour les Grecs, quelque part, cet esprit, le monde des idées, le monde des pensées spirituelles est un monde idéal, parfait. Et le monde dans lequel nous vivons, qui est limité, qui est dans la matière, qui est incarné, lui, il est une pâle copie ratée de ce monde des esprits. Et donc, ils espèrent qu'à la mort, on est libéré de cette matière, de cette chair, pour rentrer dans le monde des esprits où là, tout est beau et tout est pur. Alors, on pourrait trouver plein de points communs entre ça et le christianisme. Mais, alors que les chrétiens disent, eh bien, ce Dieu qui est pur esprit est devenu humain, il nous a rencontrés, il nous a rejoints, il est né d'une vierge, nous l'avons dit pour la confession de foi. Alors là, les Grecs disent, non, impossible que le Dieu se souille en prenant chair. Et chez les faux enseignants qu'on trouvait dans les églises auxquelles écrit Jean, là, on trouvait cette idée-là, que le Christ ne s'est pas incarné. Donc, le corps, Dieu, il s'en fiche, parce que le corps, c'est méprisable. Ce qui compte, c'est l'esprit. Alors, il peut arriver n'importe quoi à votre corps. Vous pouvez faire n'importe quoi avec votre corps, disait-il. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'esprit. Et on voit que Jean est en train d'essayer d'équiper les chrétiens des églises auxquelles il écrit contre ce genre de fausse doctrine. Et on va voir comment. Mais d'abord, cette exhortation de demeurer en lui pour qu'au moment où Jésus paraisse, nous ne soyons pas dans la honte, mais pleins d'assurance et heureux. Je ne sais pas comment vous vous représentez ce moment où Jésus va apparaître. Est-ce que vous allez trembler? Est-ce que vous allez crier de joie? Est-ce qu'un sentiment contradictoire va habiter en vous? Étonnamment, je peux vous dire cette parole. Il y a de fortes chances que Jésus soit plus content de vous voir que vous ne soyez content de le voir. Il y a de fortes chances que le Seigneur rayonne d'une joie qui vous surprendra à l'idée de vous voir et de vous rassembler enfin, en chair et en os, ressuscité, glorieux, pour l'éternité dans son peuple. Pourquoi est-ce que je peux dire ça? Pourquoi est-ce que je peux dire ça? Mais le verset suivant nous le dit. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. C'est pas voyez combien, la taille, la quantité, c'est voyez la nature. Quel amour, de quelle sorte d'amour le Père vous a aimé, puisque il vous appelle ses enfants. De quel amour le Père nous aime. Ce n'est pas un amour de « Ah, je t'aime bien parce que tu m'es utile. Ah, je t'aime bien parce que tu me rapportes du fric. Ah, je t'aime bien parce que tu rapportes plein de nouveaux chrétiens dans mon église. Ah, je t'aime bien parce que tu m'oublies jamais, tu me pries tous les soirs. » Ce n'est pas de ce genre d'amour-là qu'il nous a aimés. Il nous a aimés en nous adoptant et en faisant de nous ses enfants. Ses enfants. Et nous le sommes, dit Jean, et nous le sommes. Et c'est pour ça que le monde ne nous connaît pas, parce que le monde ne l'a pas connu lui. Le monde n'a pas connu Jésus. Ou pour être plus juste, le monde n'a pas voulu reconnaître Jésus comme le roi, le Seigneur et le Dieu du monde. Eh oui, qui voudrait d'un Dieu qui s'humilie, qui voudrait d'un Dieu qui pardonne, qui voudrait d'un Dieu qui patiente? Nous, on veut un Dieu qui serve nos intérêts, qui se laisse pas faire. Mais ce Dieu de grâce, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu qui endosse la faiblesse, bien qu'il demeure tout puissant. Celui-là, le monde ne l'a pas connu. Même nous, parfois, on a du mal à garder les yeux bien fixés sur ce Dieu de grâce. Alors nous sommes maintenant enfants de Dieu, nous dit Jean. Et donc déjà, c'est une super nouvelle, vous êtes adopté. Et qu'est-ce que vous avez fait pour être adopté? Qu'est-ce que vous avez mérité pour être adopté? Absolument rien. J'ai des amis qui sont en train d'attendre en procédure d'adoption d'un enfant. Et en fait, l'enfant qui va être adopté n'a rien à faire. Il va être choisi. Il va leur être confié. Et eux, il n'y a que leur désir d'enfant qui justifie qu'ils vont en avoir un. Et l'enfant entre dans une famille qu'il ne connaît pas et pour rien, juste parce qu'il est désiré. Il y a une gratuité absolue dans l'amour de Dieu envers nous. Vous ne pouvez pas mériter d'être enfant de Dieu. Alors, si vous ne pouvez pas le mériter, comment pourriez-vous le perdre? Comment pourriez-vous perdre ce que vous ne pouvez pas gagner? Il y a là une profonde espérance et assurance dans laquelle nous installer, nous demeurer dans cet amour. Et alors, ce n'est pas fini parce qu'il continue en disant « Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons, donc vous êtes des enfants de Dieu et vous êtes destinés à devenir semblable à Christ. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque lui va apparaître, nous serons semblables à lui. Lorsque lui va apparaître, nous serons semblables à lui. » Il y a ce texte dans Philippiens 3 qui dit la même chose, je vais vous le lire, Philippiens 3, 20. Paul écrit « Pour nous, notre cité est dans les cieux et nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » D'accord ? Donc, le Seigneur Jésus-Christ qui descend des cieux. « Et qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au moment où Jésus va revenir, la deuxième venue du Christ, vous serez transformés. Alors, de deux choses l'une, soit vous êtes mort et vous êtes ressuscité, que vous soyez un tas de cendres ou sagement enterré dans un cercueil ou que sais-je encore. C'est pas ce genre de choses qui va limiter la puissance de Dieu pour vous ressusciter et vous donner un corps semblable au sien. Ou alors vous êtes encore vivant et vous assistez au retour du Christ et au moment où il arrive, par sa puissance, vous le voyez et vous êtes transformé à son image. Alors, transformé à son image, ça ne veut pas dire que vous allez tous, je sais pas, devenir baraqués ou avec des mensurations parfaites. Ça sera vous. Mais avec un corps, avec un cœur et un corps libérés du péché. Libérés de la mort, libérés de la vieillesse, libérés de toutes ces marques qu'on a, parce que vous savez que notre corps, il imprime aussi notre souffrance. Libérés de ça, de toutes les somatisations peut-être qu'on a encaissées. Libérés de toutes les blessures du cœur qu'on ne sait pas guérir, qui se sont accumulées. Libérés de tout ce qu'on a porté, de tort, de culpabilité, d'avoir mal agi. Libérés de tous les mensonges qu'on a trop cru, des illusions qu'on a poursuivies en vain. Complètement transformé à l'image du Christ. Et notez le message chrétien. Jean n'est pas du tout en train de dire « Le Christ arrive et vous avez intérêt à être bien sapé le jour où il apparaît parce que sinon, il n'est pas en train de dire « Le Christ arrive, rangez-vous, soyez bien carrés » parce que il est en train de dire « Quand le Christ va apparaître, vous serez changés à son image. Quand le Christ va apparaître, vous serez transformés à son image. » Et il ajoute, verset 3, écoutez bien, c'est génial. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme le Seigneur est pur. » Le simple fait de fantasmer, de rêver, de soupirer après ce moment où je vais être libéré. Vous êtes déjà en train de vous purifier si vous gardez, si vous caressez cet espoir, cette espérance. Si vous contemplez cette espérance en vous, le simple fait de la contempler produit déjà un effet de purification en vous. Étonnant, non ? Voilà ce que je vais devenir. Je contemple dans mon cœur, je repasse dans mon cœur ces paroles. Voilà ce que je vais devenir. Je ne serai plus impatient, je ne serai plus colérique, je ne serai plus amer, je n'aurai plus ces paroles acides. Je ne souffrirai plus chaque matin en me levant. Mon corps ne sera plus cette prison qui me peine, qui me porte peine et qui me fait presque soupirer après la mort. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme le Seigneur est pur. Voyez, cette adoption, enfant de Dieu, où nous n'avons rien à faire, cette transformation qui aura lieu où nous n'aurons rien à faire que de voir Christ. Et contempler aujourd'hui cette espérance qui déjà produit un fruit en nous. Pourquoi ? Parce que la foi est là. Parce que je crois. Oui, je crois que quand Christ reviendra, je serai libéré, transformé, délivré, pour citer la chanson. Ça, c'est le premier volet qui est plutôt heureux. Et puis, il glisse dans un deuxième volet qui nous inquiète un peu plus, peut-être. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Et le péché, c'est la violation de la loi. Bon, jusque-là, on est à peu près d'accord. Et c'est pour ôter le péché que le Seigneur est apparu dans le monde. Pour ôter le péché. Alors, quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Alors, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme le Seigneur, mais celui qui pratique le péché est du diable. Alors, on ne va pas se leurrer, on est tous des pécheurs, n'est-ce pas ? Dans le sens où nous commettons tous les jours des péchés. Aucun d'entre nous ne peut dire « Ah, aujourd'hui, je n'ai pas péché, hein. » Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai fait un sans faute. Ah, celui qui pense ça, il est déjà en train de s'aveugler. As-tu remercié Dieu pour toutes les choses qu'il t'a données aujourd'hui ? As-tu pensé à remercier Dieu pour l'air que tu respires, le souffle et l'esprit de vie qui t'est maintenu ? As-tu pensé à manifester la reconnaissance et de la bonté envers toutes les choses que tu as croisées ? Aucun d'entre nous ne peut prétendre être sans péché. Alors, est-ce que Jean est en train de dire que nous sommes tous du diable ? Non. Non. Je peux peut-être demander à Rémi ou à Fred, est-ce que tu as déjà joué au tennis ? Qui me dirait oui. Mais si je leur dis, est-ce que tu pratiques le tennis ? Le sens de la question est différent. Il ne s'agit pas de savoir si je l'ai déjà fait ou pas. Il s'agit de savoir si régulièrement, je m'adonne, je m'entraîne, je pratique, je performe du tennis. Ici, l'enjeu est le même. L'enfant du diable n'est pas celui qui pêche ici, là, et encore là, et encore ici, et encore là. L'enfant du diable, c'est celui qui pratique régulièrement, comme je pratique le karaté, ou comme vous pratiquez, j'en sais rien, le yoga ou autre, pratique le péché. Pratique le péché. Voilà. Chaque semaine, je vais faire ça. Chaque semaine, je vais mentir. Chaque semaine, je vais dominer mon conjoint. Chaque semaine, je vais être dans l'ironie acerbe, vous savez, qui tacle bien. Chaque semaine, je vais me positionner dans mon égoïsme et me favoriser moi en sachant bien que je défavorise les autres. Bon, vous connaissez la liste. Et celui qui, l'adepte du péché, le pratiquant du péché, se justifie. Et il invente un petit discours pour dire que, oh non, mais ça, c'est pas du péché vraiment, tu vois. Dieu, c'est pas ça qu'il regarde, tu vois. Non, mais en fait, tu peux interpréter ce texte comme ci et comme ça, etc. L'enfant de Dieu, lui, soyons francs, ça peut être à peu près la même chose. Sauf que lui, il pleure en lui-même. Il a honte de lui. Il est contrit et il s'en veut. Et il ne sait pas quoi faire. Et il se cache et il sait. Et il n'aime pas cette dualité en lui. Ce combat en lui. Entre la lumière et les ténèbres. Entre cette chair qui le conduit à désirer pécher. Et aussitôt après avoir péché, il est là à se sentir nul et minable. Et honteux. Et indigne. S'il y a un combat en vous, c'est parce que l'Esprit est là. S'il y a un combat en vous, c'est parce que l'Esprit est là. Un jour, Camille disait à sa mère, « J'ai peur de ne pas être sauvée. » Et sa mère lui disait, « Le simple fait que tu aies peur prouve que tu es déjà sauvée. Parce que si tu étais réellement perdue, tu n'aurais rien à faire. » Tu n'aurais rien à faire. Si réellement tu étais loin de Dieu et coupé de Dieu, tu n'aurais rien à faire de ce que Dieu pense de toi. Le simple fait que tu aies peur souligne que tu te soucies de ce que Dieu pense de toi. Le simple fait qu'il y ait un combat à l'intérieur de vous montre que l'Esprit est là. Alors, pourquoi Jean est-il en train de dire « Quiconque demeure en lui ne pêche pas. » Parce que vous n'êtes plus des pécheurs. Votre nature n'est plus celle d'un pécheur. Pour être franc, en fait, ce sont vos habitudes qui sont celles d'un pécheur. Votre manière de penser qui est celle d'un pécheur. Encore. Mais votre nature, elle, ce que nous sommes, n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque lui paraîtra, nous serons alors glorifiés en lui. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et oui, parce qu'on n'a encore à peu près rien compris à ce que c'est que le royaume, on continue. Mais on en souffre. Mais on en est peiné. Et si d'une supplication, Dieu pouvait, d'un claquement de doigts, m'enlever ça du cœur. Oui. Oui. Il y a un pasteur qui donnait cette illustration assez intéressante. Imaginez, voilà, on est en école, je ne sais pas, école d'ingénieur ou je ne sais pas. Et alors, il y a ce prof de physique qui est là. Et puis alors, dans cette école d'ingénieur, il y en a qui font une option physique et qui adorent la physique et tout ça, machin. Et puis, il y en a qui sont maths, et plus des, voilà, des maths, quoi. Et bon, la physique, ça les saoule pas mal. Et le prof leur dit, écoutez, voilà, cette année, je veux qu'on s'intéresse vraiment à vivre et à comprendre et à s'éclater avec la physique. Alors, je vous le dis tout de suite, dès la rentrée, vous aurez tous 20 sur 20 à l'examen. Je vous le note déjà dans votre bulletin de fin d'année, je vous mets tous 20. Alors ceux qui adorent les maths et qui n'ont rien à faire de la physique, ils vont se dire, ah bah, c'est cool, on peut jeter nos cahiers, on n'a rien à faire, de toute façon on aura 20 quoi. Mais ceux qui adorent la physique, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Oh bah, c'est super, on peut que s'intéresser à la matière quoi. On n'a pas à faire attention à si on gagne des points ou on ne gagne pas des points, on peut vraiment se passionner pour ce qui nous passionne. De la même manière, en fait, on distingue les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui est un enfant de Dieu à qui je dis « Mais tous tes péchés te sont pardonnés. » Il se dit « Mais alors, j'ai plus qu'à me concentrer sur la course. J'ai plus qu'à me concentrer sur suivre Jésus puisque tout est réglé, puisque mon entrée dans le royaume, elle est bouclée. Et puis il y a celui qui dit, ah bon ? Alors on peut faire ce qu'on veut, c'est open bar. Et lui, il n'a pas compris. Et quand on lui dit, tu vas être transformé à l'image de Christ, ok. Mais celui qui aspire à vivre dans ce royaume, celui qui aimerait bien que ce royaume débarque maintenant, mettre fin à ce monde déchu de douleur, celui-là, tu lui dis, mais tout est payé, il dit, ah, oh, on peut se concentrer sur l'essentiel alors. J'ai plus à être dans la peur. C'est ça la grâce. Et ainsi, celui qui est né de Dieu, celui qui aspire à ce royaume, celui qui veut être transformé par Christ, il ne se complaît pas dans le péché. Il en souffre. Il en a honte. Il en désespère. Et donc Jean informe cette église et leur dit, attention, ce sont les fruits dans la vie des gens qui vous diront la vérité. Les fruits, et notamment le fruit de l'esprit. C'est pour ça qu'il ajoute, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Alors encore une fois, pratiquer la justice ne signifie pas être impeccable, parce que se vivre ce chemin, c'est avec certitude aller vers le légalisme, et le légalisme engendra, c'est une certitude aussi, beaucoup de douleur et de souffrance dans l'Église. Celui qui pratique la justice dans les yeux de Dieu, c'est celui qui apprend pas à pas à reconnaître ses torts, d'une part, et à demander pardon, et d'autre part à pardonner, mais qui ne laisse pas le mal impuni, ou qui ne cache pas le mal, qui ne le met pas sous le tapis, ni dans sa propre vie, ni dans la vie des autres. Donc Jean ajoute comme critère maintenant, on avait déjà vu dans les chapitres précédents que pour discerner entre l'enfant de Dieu et l'imposteur qui se dissimule dans l'Église, il y avait ce test de l'amour des frères, celui qui aime son frère aime Dieu, mais celui qui dit qu'il aime Dieu mais qui a de la haine pour son frère est un imposteur. Et là il ajoute ce test, celui qui aime Dieu pratique la justice, encore une fois pas dans le sens impeccable, mais celui qui aime Dieu, il veut lui ressembler, il veut lui ressembler. Je veux porter le fruit de l'esprit en moi. Je veux que mon caractère soit transformé pour ressembler au caractère de Jésus-Christ. Mais avec cette espérance, frères et sœurs, cela vous sera certainement accordé au retour du Seigneur. Alors nous marchons dans la lumière. Nous marchons dans l'espérance de ce que nous allons obligatoirement devenir parce que l'Esprit Saint est en vous. Et celui qui contemple cette espérance se purifie lui-même. Persévérons, frères et sœurs, sur ce chemin de grâce. Amen.